France Musique.
Petit, je me souviens avoir trouvé dans la bibliothèque de mon père, qui n'écoutait pas beaucoup de musique classique, un livre intitulé « Variations sauvages », où l'on vous voyait, tout sourire, au milieu des loups. Je connaissais donc votre nom avant même de m'intéresser à la musique classique. Une enfance star qui a connu la reconnaissance internationale à un âge où la plupart d'entre nous ne savons même pas ce que nous voulons faire de notre vie. En feuilletant les pages de ce livre autobiographique, Les Variations sauvages, en écoutant des archives, quelque chose se dégage, une force et une volonté évidente. La musique et le piano sont votre langage, comme tous les pianistes, n'est-ce pas ? Pourtant, à votre propos, on a dit beaucoup de choses en occultant même votre talent de pianiste, chez Fogiel ou Ardisson. Pour une certaine presse et dans l'imaginaire, on vous réduit à la femme au loup, à la belle pianiste au regard bleu acier, à la rebelle, celle qui fascine, ou qui fait peur, comme les sorcières de Salem de jadis. D'ailleurs, votre dernier ouvrage se nomme « Retour à Salem ». Salem, aux États-Unis, c'est aussi là où vous avez créé le centre de conservation des loups. Mais la musique, dans tout cela, que dit-elle de vous ? Qui êtes-vous, Madame Grimaud ? Notre premier épisode de la semaine s'ouvre sur une leçon particulière.
Vous l'avez vu, cette dame piano, Civito ? Ah, alors, c'est formidable. C'est fou ce qu'il y a de choses dans cette musique. Même quand on croit la savoir. C'est vrai que je découvre tous les jours, moi. Je me demande qui a dit « on ne lit jamais assez un texte », mais à 60 ans, tu t'aperçois que tu n'as rien compris encore. Alors, on continue. Là où on était. Maintenant, pianissimo! Et la petite pédale au milieu pour... Voilà. Oui! Pas très vite. Bégard, chut, bête, tu as le temps, il se passe rien, et il se passe maintenant, un peu plus lourd, pas trop de pédales. Le temps. Écoute bien, là je vais te dire, tu mets troisième sur si bémol et deuxième sur ré bémol. Si tu mettais troisième sur si bémol et pouce sur ré bémol, eh ben, essaye. Ouais, ré. Ça donne... C'est moins facile, aisé. Il n'y a pas d'aisance là-dedans. Il a dit, ça va bien, il aussi, il a ça. Voilà. C'était trop serré, c'était sublime, mais trop serré. Chut. Non, tu as trop attendu le... Simple, normal. Deux. C'est bien. Ouais, écoute. C'est commercial, ça. Non, mais c'est très bien. Tu fais le ré bémol plus piano que le si. Alors tu te dis, donc ça me rappelle Madame Long qui disait « Quand vous ne voulez pas augmenter, diminuer. » Voilà, ce sont des trucs, c'est génial, si tu veux. C'est bien dans beaucoup de choses. Mais là, c'est pas la peine. Si, ré, do. Ça, c'est un procédé, ça. Mais c'est bravo, je te félicite. Ça sera une grande pianiste, cette fille. Mais une grande pianiste peut se passer de procédé. Oui. Écoute bien, Hélène. Tu fais tôt, padidim, pididim, pididim, pididim. Ça fait le galop. Tagadoum, badadoum, badadoum, badadoum. Mais est-ce que c'est ce que Beethoven a voulu? Badadim, 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 badadad, tansan. C'est do, fa si si, mi la la, ré so sol, do fa fa. Do si la sol, fa, tu vois, et pas padidim, padadam. c'est pas la même chose. Tiens, les valeurs. Non, il n'est pas passé. Bon. Ah.
Ce sera une grande pianiste. Les mots de Pierre Barbizet en juillet 1983 lors d'un cours donné dans l'abbaye de Saint-Maximin pendant le festival d'Aix-en-Provence. Au piano, Hélène Grimaud. Elle est son élève depuis un an et n'a que 13 ans quand les micros de France Musique enregistrent cette masterclass où l'on devine toute la foi de Pierre Barbizet pour cette jeune pianiste pleine de promesses. Et c'est justement à Aix-en-Provence que naît Hélène Grimaud le 7 novembre 1969. Une enfance solitaire, sans amis ni frères et sœurs, une petite enfance faite de un, comme elle le raconte dans son premier livre Les Variations Sauvages. Hélène est insoumise, insatisfaite, insatiable, insubordonnée, inadaptable, imprévisible. La littérature, et plus particulièrement la littérature russe, la passionne déjà. Et afin d'aider leur fille à se sociabiliser avec ses camarades, à s'ouvrir à un monde qu'elle perçoit comme cruel, ses parents l'inscrivent à des cours de judo et de tennis. Mais à ses 7 ans, elle fait une rencontre décisive. C'est à mon père que je dois d'avoir commencé la musique. Ma mère, elle, freinait. L'idée l'a rebutée. Elle craignait que la musique m'enferme un peu plus et m'écarte définitivement de la société des autres enfants. Mon père a insisté et il a gagné. 2 heures plus tard, un loueur installa à la maison un piano droit et l'adresse de Jacqueline Courtin en poche. Mon père prenait rendez-vous avec elle. J'avais 7 ans à peine. L'aventure commençait.
Thank you.
L'étude tableau en sol mineur et surtout celle en ré mineur de Rachmaninov, la préférée d'Hélène Grimaud qu'elle choisit d'enregistrer dans son tout premier disque sorti en 1986 chez la firme japonaise Denon. Un disque qui contredit l'image d'une jeune pianiste que l'on pourrait imaginer fragile puisqu'elle se frotte aussi dans ce disque à la redoutable deuxième sonate pour piano de Rachmaninov. Mais revenons quelques années en arrière. À Aix-en-Provence, les années passent et les cours de Jacqueline Courtin sont une révélation. Hélène se jette à corps perdu dans le piano et sait qu'elle a bien fait de ne pas choisir le violoncelle qui l'intéressait tout autant au début. À 11 ans, elle entre au conservatoire de la ville, grande sœur d'Aix-en-Provence, Marseille, où Jacqueline Courtin l'accompagne pour qu'elle suive des cours avec celui qu'on appelle Pierre Barbizet. Il était quelqu'un qu'on appelait naturellement, spontanément, maître, parce qu'il l'était, écrit-elle dans ses variations sauvages. L'ascendant qu'il exerçait sur vous, retapé dans le soleil de son accent, et l'étincelle de sa prunelle rendait tout travail lumineux. Avec l'aide et la détermination de Pierre Barbizet de passer outre la limite d'âge des 14 ans pour entrer au Conservatoire de Paris, Hélène Grimaud rentre au Conservatoire en 1982, elle n'a que 13 ans, quand elle est reçue première à l'unanimité dans la classe de Jacques Rouvier. Elle suit également les cours de Giorgi Sandor, de Léon Fleischer et de Christian Ivaldi, dont elle adore les cours d'accompagnement. Son enfance dans les années 80 se résume à des allers-retours entre Aix-en-Provence et Paris, les cours à distance du CNED qu'elle révise dans le train, pas de TGV à l'époque. Ce n'est d'ailleurs pas à Paris mais à Aix-en-Provence qu'elle donne son tout premier grand concert. Elle n'a que 14 ans, mais elle voulait à tout prix jouer le concerto pour piano numéro 2 de Chopin. Trois ans plus tard, elle arrive en demi-finale du concours Tchaïkovski et le 14 août 1986, elle participe à la Rock d'Anteron à une masterclass autour d'Après une lecture de Dante de Liszt avec un pianiste qu'elle admire, Georges Bollet. En 2003, dans ses variations sauvages, elle se souvient, il avait 73 ans et pourtant, à lire sa vie, si extravagante parfois, à écouter ses enregistrements, je me sentais plus proche de lui que d'un grand nombre de mes contemporains. Je voulais me confronter à un maître, je le reconnaissais comme tel.
Moi j'ai réécouté ce qu'il faisait, surtout, et finalement ça m'a plus servi que si j'avais retravaillé moi, parce que ce sont beaucoup des choses d'écoute, d'oreille, qui m'a montré. Donc il m'a suffi de l'écouter surtout pour... Et ce qu'il dit est très proche de ce qu'il fait, contrairement à certains qui font... S'ils faisaient ce qu'il dit, ce serait magnifique. Et la plupart du temps, il y en a qui n'arrivent pas à réaliser, peut-être parce qu'ils n'ont pas les moyens instrumentaux, ça peut être plusieurs choses, ou des blocages simplement. Mais lui fait vraiment ce qu'il dit. Donc quand on l'écoute, on a déjà résolu un certain nombre de problèmes sur lesquels on n'a plus à s'attarder quand on le voit. Moi, certaines choses de... D'abord d'impassibilité qui fait que finalement les choses ressortent peut-être plus... avec plus de grandeur que s'il s'agitait énormément, surtout point de vue son. Le son est beaucoup plus mat et grand quand il reste impassible face à son instrument. Et qu'en bougeant, j'ai remarqué souvent, en bougeant, on fait des choses qui... Bien sûr, pour l'élan, ça peut aider, mais il y a quand même physiquement une certaine retenue à observer, ça peut aider souvent. Et lui, c'est comme ça, il est vraiment très... très impassible. Il y a quand même tellement de choses qu'il a et qui ne sont pas uniquement au niveau de ni de l'explication ni de l'esprit. C'est lui. Ce qu'il fait, c'est lui. Donc de toute façon, même si on a simulé un certain nombre de choses, ça restera toujours ce que nous, on en fera.
Thank you.
Une pièce en deux parties comme la Divine Comédie de Dante qui l'inspire. D'abord les enfers, puis le paradis. Après une lecture de Dante de Franz Liszt sous les doigts d'Hélène Grimaud sur France Musique. Une œuvre exigeante qu'Hélène Grimaud travailla à la Roque d'Anthéron à l'occasion d'une masterclass auprès de Georges Bollet. Un extrait de la deuxième année de pèlerinage de Liszt qui figure d'ailleurs dans son deuxième disque enregistré chez Denon en 1987. Encore une œuvre de choix qui contredit les conseils de certains qui la verraient plutôt enregistrer un Chopin.
Été classique, les grands interprètes, France Musique.
Cette même année 1987, Hélène Grimaud retourne à la Roque d'Anthéron et donne un récital autour de Chopin, justement, mais aussi de Schumann et de Bach. Avec là encore des œuvres redoutables, la première ballade de Chopin, la Chaconne de Bach et la première sonate de Schumann. À cette occasion, le producteur David Gis, immense producteur de radio qui nous a quittés le 18 juillet dernier, se promenait avec Hélène Grimaud dans l'abbaye de Sylvanès. Cette émission lui est dédiée.
Vous avez déjà joué dans des églises ou des choses comme ça?
Oui, bah, c'est-à-dire que j'ai surtout fait un essai d'enregistrement dans une église.
D'enregistrement?
Parce que mon premier disque, je l'ai fait au Concertgebouw d'Amsterdam, qui est une salle absolument superbe et presque idéale. Et il se trouve qu'en ce moment, le Concertgebouw est en travaux. Donc on a fait un essai pour voir si on pouvait enregistrer un disque dans l'église où était transférée toute la série des concerts, justement. Mais on s'est rendu compte que vraiment pour le piano, ça n'était pas possible. Quoi.
C'est vrai qu'ici... Bien.
Oui. La preuve est faite.
C'est assez beau, ce lieu.
Oui, je pense que, en tout cas, pour un concert, ça doit créer une atmosphère très agréable. Et puis, il y a une qualité du silence, déjà, au départ. Avant même que les gens soient dans la salle, dans le lieu. Et là, c'est vraiment le cas. Peut-être dû à l'austérité, justement.
Mais c'est intéressant, ça, c'est, cette notion de silence dans la musique.
Ah oui, mais sans silence, souvent on dit que les musiciens négligent le silence. Alors, en tout cas, nous, on nous en parle beaucoup au moment de nos études. Mais c'est vrai que c'est primordial. Sans silence, la musique ne respire pas. Et sans silence, on ne peut pas apprécier ce qui vient, ce qui précède ou ce qui va suivre.
une œuvre qui figurait au programme du concert d'Hélène Grimaud donné en août 1987 au Festival de la Roque d'Anteron. Un autre extrait du second disque d'Hélène Grimaud paru chez Denon en 1987 avec la ballade en sol mineur de Chopin par Hélène Grimaud sur France Musique. Restons à la Roque d'Anteron en compagnie d'Hélène Grimaud et de David Gis. À son micro, elle présente déjà une maturité assez exceptionnelle pour son âge.
Le moment du choix, le moment à l'âge de 12 ans, on dit bon, allez, on fait le conservatoire. Comment ça doit être difficile comme décision?
Bah ça, je pense que ça a été difficile pour mes parents de me laisser partir, mais pour moi, c'est venu tout à fait naturellement. En plus, on s'était pas fait à l'idée vraiment très tôt, dans la mesure où j'ai commencé à savoir que le conservatoire de Paris existait. À partir du moment où je suis entrée à Aix, au conservatoire d'Aix, parce que j'en voyais certains qui présentaient le concours. Mais comme j'ai fait toutes mes classes en 4 ans, donc assez rapidement, c'est venu vite, sans qu'on ait eu le temps vraiment d'y réfléchir et de prévoir ce qu'allait se passer. Et puis les choses se sont faites sans aucun problème, finalement. Justement, les gens ont le temps de concilier. Si on se pose toujours tant de questions sur les problèmes que ça pose de prendre ce genre de décision, c'est justement parce que les choses sont mal faites et vraiment les arts et les études, ce qu'on appelle les études classiques, devraient se mêler beaucoup plus. Ça faciliterait quand même les choses et ça serait mieux pour tout le monde. Au cours de ma deuxième année de scolarité au conservatoire, j'avais joué le deuxième concerto de Chopin, le Fé mineur, donc avec orchestre. Et cette bande est passée entre les oreilles, enfin entre ou sur, je ne sais pas, du directeur artistique de la maison japonaise, qui fait beaucoup de voyages en Europe, puisqu'il y fait la plupart de ses enregistrements, les salles au Japon étant sèches, trop sèches, pour les enregistrements de piano notamment. Et c'est lui qui a voulu que je fasse un enregistrement le plus vite possible. On a quand même attendu que j'ai mon prix. Et c'est ce qui s'est fait l'été, donc qui a suivi le concours des prix. Je suis partie à Amsterdam et j'ai enregistré. Voilà. Donc en fait, ça s'est fait parallèlement aussi. Il n'y a pas eu de décalage. Je ne sais même pas si je me suis vraiment rendu compte de ce que ça représentait.
Donc toujours fait dans le même naturel. Au fond, je joue, ça me plaît, les conditions sont bonnes, faisons-le.
Mais voilà.
Et le rapport entre votre mode de vie, qui quand même est un mode de vie contraignant, puisque c'est le travail, c'est les répétitions, c'est quand même beaucoup de choses de l'ordre de la contrainte.
Mais non, le travail et les répétitions ne sont pas des contraintes, puisque ça amène au plaisir de jouer. L'un ne va pas sans l'autre.
Vous ne le vivez pas comme une difficulté, comme une astreinte, comme une rigueur, comme quelque chose qui va vous peser.
Ah non, le travail, surtout pas. Je ne le vis même pas comme un travail. C'est une façon d'arriver à jouer. À partir du moment où je joue, je suis heureuse de jouer. Il faut bien passer par le travail pour y arriver. Donc ça ne me pèse, mais alors vraiment pas du tout. Les répétitions non plus, d'ailleurs. Mais je ne peux pas vous dire. En tout cas, ça m'étonnerait que ça change quoi que ce soit en ce qui me concerne. Peut-être qu'un jour, je trouverai que vraiment ce métier n'est plus possible. Mais là, vraiment, je suis loin.
Thank you.
Une berceuse sur France Musique avec cette aria de la première sonate opus 11 de Robert Schumann, un extrait du deuxième disque d'Hélène Grimaud paru chez Denon en 1987. Et c'est aussi une œuvre qu'Hélène Grimaud interpréta le 17 août de la même année à la Rock d'Anteron, un concert ambitieux et qui a visiblement beaucoup plu au public.
Bon courage et beaucoup de bonheur avec la musique. Merci.
Et c'est signé par qui ?
Hélène Grimaud.
Difficile programme, oui. C'était à la fois ambitieux, courageux, et puis quand on la voit si jeune encore et si frêle, on est d'autant plus admiratif, disons, de ce qu'elle a fait.
Justement, ça c'est une question que je me pose. Est-ce que dans notre jugement qu'on a sur une artiste comme celle-là, est-ce que la part jeunesse prend une grosse part dans notre critère de jugement, et est-ce qu'on n'aurait pas tout à fait une attitude différente par rapport à un pianiste plus confirmé, entre guillemets ?
Peut-être au début, je crois, et puis après, quand elle joue, on l'oublie tout à fait, parce qu'on écoute uniquement la musique qu'elle fait. Qu'elle fait, je crois.
Difficile et j'allais dire presque risqué, parce que il y a tellement de choses,
Je m'en suis presque rendu compte après d'avoir programmé, en fait, parce qu'au départ il y avait une sorte d'élan dans le travail quand on commence une œuvre, mais quand j'ai commencé à vouloir l'enchaîner et la jouer, je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait des choses presque insurmontables. D'abord parce que l'écriture elle-même, et même lui, ce qu'il a écrit, ça c'est peut-être pas aussi cohérent que ce qu'on a l'habitude de faire. Alors il y a des œuvres très longues comme Grace Mariana, mais qui sont un enchaînement de petites pièces. Donc ça ne demande pas le même effort de construction qu'un mouvement qui dure un quart d'heure et qui se répète tout en changeant le climat. Il y a vraiment des choses, un film qui change, on ne se rend pas compte, mais ça peut faire beaucoup. Et si on ne le fait pas, ça devient...
Oui, on est sorti de l'abbaye, mais malgré tout, moi, je voudrais savoir, par rapport à l'entreprise médiatique qui s'est développée autour de vous, si ça vous paraît être une forme de pression ou pas.
Non, en tout cas, je ne me sens pas écrasée par ce que ça représente. On va dire que c'était le leitmotiv de l'entretien, mais encore une fois, ça paraît naturel, dans la mesure où on sait très bien, en tout cas, si on ne le sait pas avant, on s'en rend compte très vite, mais on sait très bien que maintenant, peut-être c'est dû au fait qu'il y a de plus en plus de pianistes, et peut-être que les gens, ce qu'on appelle la vulgarisation, se forment donc leur goût, à force de voir des choses et d'en entendre sans peut-être y être poussé naturellement. Donc ils finissent par avoir un goût critique qui se développe. Donc ça me paraît naturel qu'ils soient informés, et en ce qui me concerne, ça me paraît aller avec.
Finalement, tout se passe à votre insu. Vous venez de le dire, je trouve ça assez bien, finalement, ces choses-là. Les choses, même la musique, finalement, mûrit à l'intérieur de vous, presque malgré vous. C'est ce que vous dites des fois.
Oui, mais je crois qu'il faut. Si on contrôle, qu'on se rend toujours compte de tout ce qui se passe, bien sûr, on peut rester lucide, mais je crois que c'est quand même bien qu'un certain nombre de choses se passent sans qu'on en ait le contrôle tout le temps. Parce que ça se ressent quand on joue, et il faut savoir s'abandonner. Il faut pour ça que les choses vous surprennent vous-même. Et ça, on ne peut pas. Si on sait exactement ce qui se passe à chaque minute, ça ne peut pas intervenir. En tout cas, ça ne peut pas surprendre les gens qui écoutent.
Pourtant, quand vous jouez, vous êtes obligé d'être dans une forme de contrôle.
Oui, on sait où on va, mais on sait toujours qu'il y a une part d'imprévu, et on ne sait pas à quel tournant d'un phrasé, sur quoi on va se retrouver. Et ça, je crois qu'il faut que ça reste.
Thank you.
Et c'est avec ces cloches à travers les feuilles de Claude Debussy qu'Hélène Grimaud terminait son concert donné en août 1987 au Festival de la Rock d'Anteron. Un concert enregistré par France Musique avec David Gis en 1987, donc pour la 7e édition du Festival International de Piano de la Rock d'Anteron. Terminons ce premier chapitre consacré à Hélène Grimaud avec le prélude en sol dièse mineur de Rachmaninoff, son tout premier disque. L'émission finit comme elle a commencé. Grimaud n'a que 16 ans. C'est avec le prélude en sol dièse mineur de Rachmaninoff que se referme le premier épisode de notre série consacrée à Hélène Grimaud. Demain, à 11h, deuxième épisode de notre portrait d'Hélène Grimaud intitulé 1988-1998, la consécration, une période qui est aussi celle de la naissance d'une seconde passion pour Hélène Grimaud avec la fondation du Centre de conservation des loups à South Salem. Un très grand merci à Christelle Rousseau de l'INA, à David Travailleur, réalisateur de cette émission, avec Adelino Mello et Valentin Bobinet à la technique, et Jean-René Bonissant, attaché de production.
À réécouter sur francemusique.fr.